grève des prisonniers palestiniens, grève de la faim. Certains sont en grève de la faim depuis le 24 avril 2014, ça fait donc plus d'un mois. Pourquoi la grève ? Ben, c'est une grève contre une loi israélienne qui autorise les Israéliens à, d'une manière arbitraire, à faire des détenus administratifs, c'est-à-dire des gens qu'on embastille sans qu'il y ait de charge exprimée, explicitée, et qu'on maintient comme ça internés. Souvent, c'est des responsables politiques, syndicaux ou autres, des militants. Il serait actuellement 192 sous ce statut et ces gens enfermés là depuis des mois, des années en ont marre et ont décidé qu'ils menaient cette action de grève de la faim pour que cette loi soit abolie par le pouvoir israélien. Pour eux, c'est donc arriver au résultat ou mourir, et le choix qu'ils ont fait. Et ces jours, eh ben, il y avait des Ramallah, des manifestations de soutien, des familles, des proches, des enfants, des parents, donc pour attirer l'attention du monde entier sur une grève qui fait moins la une des médias que les tireurs fous en Belgique, hein, c'est évident. Voilà, parallèlement à ça, aujourd'hui, toujours à Ramallah, d'ailleurs, le gouvernement d'Union nationale palestinienne prêtait serment. Un gouvernement qui est annoncé de personnalité indépendante et qui ne, la naissance ne se fait pas sans douleur, puisque du côté du Hamas, ils annoncent ne pas le soutenir. Et du côté Netanyahou, évidemment, il s'indigne de la mise en place de ce gouvernement. D'ailleurs, trois ministres du territoire de Gaza n'ont pas pu assister à cette intronisation. Et le gouvernement en question a pour objectif d'organiser des législatives et des présidentielles dans les 6 mois. Voilà, peut-être, oui, Michel ?
Oui, juste en complément, donc c'est un peu la fin de règne pour Abbas, donc la question se pose de la succession, donc qui va succéder à Mahmoud Abbas, la question n'est pas très claire. Si on posait la question globalement aux Palestiniens, qu'ils soient de la bande de Gaza ou de Cisjordanie, ils vous diraient Barghouti. Mais Barghouti est en prison, justement, dans la prison israélienne. Et derrière, il n'y a pas vraiment de consensus hein, sur les candidats qui soient à même de réconcilier le Hamas et le Fatah. Donc on voit qu'on va rentrer un peu dans une période un peu trouble, à moins que Abbas décide de briguer un nouveau mandat. Quant aux prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes, c'est aussi le non-respect hein, de la libération des prisonniers palestiniens ces dernières semaines de la part d'Israël qui explique aussi cette grève. Mais c'est sûr, comme tu le disais, il n'y a pas beaucoup d'écho au niveau international.
Allô.
Tu m'entends, oui. Tu voulais intervenir sur ce sujet ou en oublier un peu.
Je t'entends.
Bon, j'ai un petit problème technique. Il va falloir trouver la solution. Je ne suis pas sûr d'ailleurs.
Allô.
On passe à l'antenne, oui. Oui, vas-y, tu peux parler. Bon, oui.
Jean. listă din fericire. Și o să se simtă mințit, dar eu am revenit. Că sunt așa, dintr-o bucată știu, acum am ocul meu. Vreau să dansez noaptea toată, așa sunt eu, așa vreau Dumnezeu.
Allô? Allô?
Oui, ben vas-y, puisqu'on
t'entend. Allô, je n'entends toujours rien.
Je n'entends pas.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, tu peux parler.
Je peux parler là?
Oui, oui, tu peux parler.
Oui, je pense que tu évoquais la situation en Palestine, hein, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Et moi, je voulais simplement en rajouter que. On fêtait il y a deux jours les 50 ans de la création de l'OLP. C'était le 30 mai 1964 et finalement cette avancée, peut-être difficile, mais cette avancée vers un projet électoral qui en même temps signifierait le rapprochement des deux entités palestiniennes, ben c'est une bonne nouvelle sur ce fond de lutte des milliers de Palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes et qui mènent d'ailleurs des grèves sporadiques assez fréquentes. Je peux simplement ajouter que pour ce qui concernait par exemple l'organisation d'une consultation des Palestiniens, ça va être effectivement difficile, mais dans la mesure, et c'est pas de leur faute aux Palestiniens, mais dans la mesure où 60% des Palestiniens sont dans la diaspora, c'est-à-dire sont hors Gaza et hors Cisjordanie.
Voilà, peut-être un autre sujet que tu veux aborder.
Je voulais parler de ce discours qui est tout à la fois, bon, d'un certain point de vue, il marque une inflexion, puis sur d'autres points, il y a une réaffirmation. C'est ce discours d'Obama. Il avait choisi l'école de formation des officiers américains, c'est-à-dire West Point, et c'est un discours, enfin c'est une intervention comme il en fait régulièrement. Là, c'était donc devant cette académie militaire prestigieuse dans le cadre de ce que fait ce que font les Américains en matière de se doter de la plus grande armée du monde. Il a dit d'une part que c'était bon, il a réaffirmé, alors sans embâge, que d'une part le leadership c'était un acquis pour eux et qu'il n'était pas question de sortir de cette idée qu'ils exercent un leadership sur la planète. Simplement, tout en réaffirmant que l'armée est et sera toujours, c'est, on le cite là, l'armée est et sera toujours l'épine dorsale de ce leadership. Il n'empêche que il amoindrit cette déclaration guerrière par le fait que dans bien des cas c'est pas nécessaire de recourir aux armes. On peut arriver par la diplomatie, par d'autres formes, y compris la domination économique, et de maintenir ce leadership. Et bien sûr, avec cette réserve que s'il y avait une menace directe, alors là, effectivement, ça peut aller loin, une menace directe sur les États-Unis, et on pense notamment, ben oui, à la destruction des tours, Tower Tour, et qui était considérée donc comme un acte de guerre directe sur le sol américain, à ce moment-là, l'armée a tout pouvoir. Enfin, c'est une déclaration intéressante qui, naturellement, constitue bien cette inflexion qu'on peut observer d'ailleurs sur tous les problèmes. On pourra en parler tout à l'heure à propos de l'Ukraine et puis sur d'autres problèmes. Et une inflexion par rapport à ce qu'était la politique du va-t-en-guerre des Bush et derrière cette idéologie du bien et du mal.
Ah ben, puisque tu étais sur les Américains et l'Afghanistan, on peut peut-être évoquer en deux mots cette libération d'un prisonnier que les talibans détenaient depuis 5 ans, je crois, qui a été échangé contre 5 prisonniers talibans de Guantanamo. Alors, un échange, c'est là où les choses se compliquent et deviennent diplomatiquement très hasardeuses avec, par l'intermédiaire du Qatar. Hein. Alors, le Qatar qui, d'un côté, soutient, voire finance et encourage les groupes islamistes radicaux, de l'autre, entretient les meilleures relations avec les Américains qui ont leur base militaire sur le pays. Donc, c'était pas trop difficile, peut-être, d'arriver à négocier par cet intermédiaire. Évidemment, les républicains américains s'indignent qu'on ait accepté de négocier avec le diable. Eux qui, pourtant, se disent prêts à tout faire pour libérer un boy. Donc, une espèce de polémique naît autour de ça. Et c'est vrai que pour les observateurs que nous sommes, ça lasse pas d'être un petit peu plein de circonspection, ce marchandage militaro-politique.
Oui, enfin, on avait déjà vu qu'il y a un an et demi, le Qatar s'était porté volontaire un peu pour recevoir une délégation de talibans sur son sol, justement, et que ça avait très très mal passé, en vue justement de négocier un retrait progressif des troupes américaines d'Afghanistan. Donc il fallait un interlocuteur, et on avait misé donc sur les capacités diplomatiques et financière hein, des Qataris pour amener des talibans bontins, hein, des talibans avec lesquels on pourrait négocier pour que le retrait américain passe pour autre chose qu'une défaite stratégique. Hein, ce qu'elle est de fait, hein, quand on occupe un pays depuis maintenant 13 ans et que finalement on n'a pas atteint ses buts politiques, on peut considérer que c'est une défaite. Mais bon, il faut un vernis et puis il faut trouver un interlocuteur, parce qu'une paix, elle doit être, ou un accord doit être négocié avec quelqu'un, et c'est toute la difficulté des États-Unis, c'est de trouver un interlocuteur. Donc pour cet épisode, ce soldat libéré, oui, c'est juste une petite péripétie. Et si je peux rebondir sur ce que tu as dit aussi tout à l'heure sur le discours à West Point d'Obama, oui, il y a une inflexion par rapport aux années Bush-Reagan, mais dans l'absolu, rien ne change. Hein. Le budget de la défense américaine n'est pas à la baisse. Hein. Il est constant, si ce n'est à une forme d'inflation régulière. Au jour d'aujourd'hui, c'est toujours 50% donc du budget mondial de la défense des États-Unis. Donc officiellement, la défense de 320 millions d'États-Unis vaut 6 milliards et demi pour le reste de la planète. Donc il faut remettre les choses à sa juste valeur. Donc on met en avant le soft power, donc la capacité des États-Unis à, d'un point de vue économique, communicationnel, culturel, à étendre donc leur influence. Et si ça ne suffit pas, l'armée est toujours là. L'armée est présente sur les 5 continents. Et ça reste effectivement, même si on ne la met pas en avant, ça reste l'arme maîtresse de la diplomatie américaine. Si les États-Unis n'avaient pas leur armée, on peut aujourd'hui douter de la capacité du dollar à se maintenir comme monnaie d'échange commerciaux.
Voilà, autre sujet. Ben, comment ne pas évoquer aujourd'hui la place Tiananmen, 25 ans après, donc les massacres sous la directive de Deng Xiaoping. Et avec ce qui surprend, on pourrait imaginer une repentance de la Chine, une commémoration, un un musée à l'honneur des victimes. Il y a bien un musée, mais il est à Taïwan. Eh bien non, pas du tout. On a l'impression que le pouvoir est toujours dans la même terreur de ses opposants et que 25 ans après, il y a la même paranoïa avec des arrestations préventives d'une masse de gens qui n'avaient pour seul délit que d'avoir assisté à un séminaire sur la répression. Et donc une main de fer dans un système qui négocie de plus en plus avec le capitalisme et qui continue de garder ses méthodes extrêmement directives, pour ne pas dire plus.
C'est un régime communiste de pure forme, hein, avant tout. Voilà, la Chine, c'est un régime capitaliste, nationaliste et autoritaire, pour pas dire dictatorial. Et c'est pas les dernières affaires qu'ils ont eues avec les minorités ouïghours à coups d'explosifs dans le Xinjiang, mais aussi dans les autres parties de la Chine, qui va libérer les dirigeants chinois et les amener à plus de transparence. Non, ce régime et cette gestion d'1,35 milliard de concitoyens, elle tient uniquement par la trique. Donc, ils sont très loin de la repentance, hein, de Tiananmen. Hein.
Voilà, Robert, je te laisse aborder un autre sujet. On a le choix.
C'est-à-dire que je serais, non pas pour caractériser globalement le régime chinois, mais je serais plus nuancé sur ce qui se passe actuellement en Chine, à savoir que toutes des formes de liberté apparaissent, et elles apparaissent à travers Internet. D'ailleurs, souvent Internet connaît aussi quelques petits problèmes en Chine, mais il se dit des choses qui étaient encore impensables, surtout à l'époque de Tiananmen. Et donc bon, il y a incontestablement une évolution, pas seulement sur son alignement sur le modèle capitaliste, avec un capitalisme d'État quand même qui reste très 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 fondé sur la puissance publique, il faut le remarquer, l'actuelle équipe au pouvoir est obligée maintenant de sortir la trique, non pas pour bastonner les étudiants, encore que ça arrive, mais surtout pour donner des coups de bâton dans la fourmilière de la corruption qui, elle, s'est étendue un peu à l'échelon de toute l'activité de la Chine. Donc il y a ce côté effectivement de la Chine qui montre que c'est une évolution qui est différente. Elle passe pas au capitalisme comme ont pu le faire les pays de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique, mais néanmoins effectivement la question reste posée: comment permettre que la diversité politique apparaisse dans ce type de modèle.
Voilà. Alors, autre sujet, la Syrie, l'Égypte, l'Ukraine, le Nigeria, tu choisis quoi? Tu choisis pas, je vois.
On est obligé, je pensais que vous alliez démarrer dessus, mais on est obligé. On a rien ne nous oblige, mais on est obligé de parler quand même de cette étape qui n'en est pas une vers une solution de la situation en Syrie, mais néanmoins Bachar et son équipe, il est pas seul, et c'est ce qui surprend beaucoup, c'est-à-dire faut pas le voir comme un homme isolé au sommet de sa tour. Il y a vraiment, on savait que la Syrie, ce sont des communautés, notamment que la communauté alaouite et éventuellement la communauté chrétienne aussi sont des appuis très fermes et qui visiblement, même minoritaires, ne permettent pas, disons, à toute la tendance qui était maintes fois évacuée lourdement et avec les armes, tout le courant religieux sunnite qui n'arrive toujours pas à percer et qui même part dans des dérapages avec ces islamistes radicaux qui déshonorent plus qu'ils ne servent la cause de la liberté en Syrie.
Voilà, donc en Syrie aussi, donc Brahimi jette l'éponge, hein, il était là, enfin, il avait pris la suite de Kofi Annan en août 2002, on cherche un nouveau remplaçant pour avoir un négociateur sur la Syrie. 2 ans, il estime qu'avoir fait tout ce qu'il pouvait faire, mais il n'a pas abouti au résultat qu'il escomptait.
Oui, enfin, officiellement, la diplomatie n'a pas abouti. La politique des chancelleries occidentales non plus. Le régime de Bachar al-Assad, de fait, non plus, n'a pas réussi à éradiquer donc l'opposition armée. Donc principalement des forces islamistes, et c'est là où on se pose la question de savoir un peu des stratégies des uns des autres. On apprend que le département d'État américain a décidé de nouveau sa politique de réarmement donc de l'opposition à Bachar al-Assad, mais dans un environnement où on sait que tôt ou tard, ces armes, de toute façon, finiront dans les mains de ce qu'on appelle les islamistes radicaux, qui sont de toute évidence les seules forces à même sur le terrain donc de porter quelques préjudices à l'armée de Damas. On voit le régime de Bachar qui a repris la main donc depuis l'été dernier, mais qui n'arrive pas donc à réduire l'opposition armée, et elle ne la réduira pas, puisque cette opposition elle est quand même implanté, hein, et géographiquement et démographiquement en Syrie, même si tu le disais, hein, Bachar al-Assad n'est pas isolé dans sa tour dorée, hein, il a effectivement les alaouites maximement qui le soutiennent, mais aussi les chrétiens dans la très grande majorité, et aussi des sunnites, hein, là, en général les dignitaires, la bourgeoisie sunnite étaient très en vue auprès donc des proches de Bachar al-Assad. Donc la situation reste d'un compliqué, et c'est là où on voit déjà tout le mal que ça a donné, donc justement la volonté d'armer ou de laisser les frontières poreuses entre la Turquie et la Syrie, parce que là aussi, hein, y a une chose qu'il faut mettre en avant, on fait donc nous les unes des journaux sur ces Français qui sont partis se battre en Syrie, et qui, avec des exemples de gens mineurs qui franchissent très facilement la frontière entre Turquie et Syrie, mais ils le franchissent parce que les autorités turques le veulent bien. N'oublions pas que cette région est très importante d'un point de vue stratégique pour les Turcs. Ils combattent depuis maintenant des décennies le PKK, les Kurdes, donc cette frontière est gardée. Donc s'ils veulent laisser passer les gens, c'est que finalement les autorités turques sont bienveillantes avec ces gens qui partent en armes, qui sont inféodés et qui partent se combattre en Syrie. Et on ne peut pas dire que là aussi les Occidentaux n'ont pas leur responsabilité, puisque la Turquie, à ce que je sache, fait partie un peu de ce parapluie occidental, il fait partie de l'OTAN. Donc si les Américains le voulaient réellement, hein, ils auraient la capacité de bloquer donc ces arrivées massives des quatre coins du monde de gens, du moins, transitant par cette frontière. Je ne parle pas pour ceux qui arrivent d'Irak. Mais on voit bien, effectivement, que le jeu, de toute évidence, c'est la continuation du pourrissement de la situation sur place. C'est l'incapacité, malgré les élections qui sont mises en place et qui ne seront pas reconnues en Syrie, et qui verront Bachar al-Assad être conduit. On voit bien que, finalement, la politique, c'est éviter que Bachar al-Assad donc réduise à rien l'opposition, continue à l'armée, même si on sait qu'elle n'a pas la capacité de faire tomber le régime, et ô combien elle l'aurait, le pays sombrerait dans le chaos le plus total. Mais de toute évidence, parmi les stratèges occidentaux, c'est une option qui leur convient assez bien.
Et oui, et puis il tire enfin la leçon des précédentes étapes. Et on pense par exemple à la Libye où il se passe des choses tous les jours. Il y a pratiquement maintenant des accrochages meurtriers à Benghazi, et pour ne pas parler de Tripoli où effectivement c'est divisé en positions clanistes. L'Irak, rien n'est réglé. L'Irak est divisé en plusieurs parties. Donc, je crois que les Occidentaux, tout en défendant cette idée qu'il faut absolument évincer Bachar, se disent qu'en même temps qu'ils n'ont pas de solution, comme tu le disais, de remplacement. C'est-à-dire que c'est Bachar ou le chaos. Alors, pour l'instant, ben, faut essayer de garder la situation dans son déséquilibre actuel, c'est-à-dire aussi longtemps qu'une solution autre ne sera trouvée, et qui met d'ailleurs en cause d'autres pays de la région. Hein. Bon, d'ailleurs, je crois que les Israéliens, finalement, ils ne sont pas forcément non plus très, très partisans de la chute de Bachar. Enfin, ils le sont, parce que c'est un ennemi de longtemps. Mais en fait, pour l'instant, Bachar, ben pour eux, c'est encore un élément aussi de relative stabilité, et la stabilité qu'ils ont créée eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils continuent à leur permettre d'exercer le leadership dans cette région.
Voilà, bon, on va peut-être changer de sujet, dire quelques mots parce que Michel n'était pas là la semaine dernière, un petit point sur l'Ukraine et sur l'arrivée donc de Porochenko, qui en plus est visité par Obama à Varsovie, là, aujourd'hui ou hier. On ne peut pas penser que ça va vraiment arranger les choses en Ukraine, et d'autant plus que ces jours, les affrontements entre les militaires légalistes et puis les pro-russes sur la frontière est continuent, avec coups d'armes et de morts qui s'ensuivent.
Oui, dans Donbass, les combats continuent autour de Donetsk, Lugansk principalement. Mais voilà, la situation est là aussi dans le blocage le plus absolu. On a eu les présidentielles qui se sont tenues en Ukraine. Porochenko vainqueur au premier tour, bravo, félicitations, mais on n'a nullement parlé effectivement de cette campagne, à quoi ressemblait cette campagne. Il n'y a pas eu de campagne, le scrutin n'a pas pu se tenir sur tout le territoire, et on n'a pas parlé aussi donc de l'abstention qui était aussi massive dans les régions où les russophones étaient majoritaires ou majoritaires relatives. Je ne parle pas là de la région du Donbass, je parle des autres régions du sud du pays et de l'est du pays. Bref, la situation reste assez explosive. Et maintenant on va voir, parce que l'offensive va bien s'arrêter, et il va bien falloir là aussi négocier, et on ne pourra pas faire non plus l'économie d'une négociation directe entre la Russie, l'Union Européenne et les États-Unis sur ce sujet-là. Mais il faut que les choses soient très très claires. Et pour que les choses soient claires, il faut savoir exactement que veut l'Europe pour l'Ukraine, qu'est-ce qu'elle est prête à donner. Que veulent les États-Unis, hein, parce que les États-Unis mènent le bal, et qu'attend la Russie, finalement. S'il n'y a pas d'accord trouvé, on risque effectivement de voir ce conflit larvé à de faible intensité, sans implication directe de l'armée russe, en laissant faire le volontariat de milices russes qui opèrent dans le Donbass, mais sans implication directe de l'armée. Puisque l'armée, là aussi c'est à noter, hein, l'offensive ukrainienne a redoublé depuis qu'officiellement l'armée russe s'est retirée de la frontière avec l'Ukraine. Donc il va falloir analyser un peu dans les semaines à venir comment les uns ont interprété le retrait des autres. En tout cas, pour les Ukrainiens, le problème reste entier. Hein, ils sont sortis au mois de novembre pour manifester contre la corruption et pour l'espoir d'un accord avec l'Union européenne. Aujourd'hui, donc, la corruption et avec sa tête les oligarques, ils y sont toujours. Porochenko, c'est un oligarque. La première fortune du pays, Akhmetov, proche de Yanukovych, il a fait défection, il n'est plus dans son fief de Donetsk, il est à Kiev et il soutient donc Porochenko. Et je ne parle pas des autres oligarques. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une recomposition autour d'intérêts de la plupart des oligarques et les lampistes qu'on va trouver hein, et condamner finalement ne cacheront pas cette capacité donc, de l'oligarchie ukrainienne à s'être retournée de là où ils défendaient leurs intérêts en les associant donc aux intérêts de la Russie. Ils sont prêts donc aujourd'hui, pourvu que leur fortune soit préservée, à le faire donc avec des accords avec l'Union européenne.
Et aussi en accord, mais sans doute c'est un accord, on va dire clandestin. Enfin, il va de soi, c'est l'accord de leurs intérêts. On comprend mieux pourquoi effectivement les Russes prorogent semaine après semaine la menace ils reportent la menace de couper le gaz, parce que effectivement l'économie industrielle de tous ces oligarques, elle a besoin du gaz russe. Donc là, il y a sans doute un énorme marchandage qui se joue et qui, comme tu l'as dit, bien au-delà de ce qu'on pouvait appeler les intérêts immédiats du petit peuple ukrainien.
Et la question, il y a officiellement 3,5 milliards de dollars à trouver pour payer donc la note. Plus augmentation du prix du gaz. La question, c'est l'Ukraine n'est pas en capacité de le payer, donc il faut lui prêter de l'argent pour qu'elle puisse régler. Jusqu'à présent, celui qui prêtait l'argent, c'était Moscou. Donc aujourd'hui, c'est qui va payer ? Est-ce que ça va être Washington ? Est-ce que ça va être Bruxelles ? La question est d'actualité, donc on n'a pas de réponse, hein, Claire. Hein, et pourtant, c'est une question qui presse. Et ce règlement donc, de la crise du gaz avec le paiement à Gazprom va déterminer l'axe aussi de la politique de Kiev. Quoi. Est-ce qu'on reste dans ce statu quo, partenariat, qu'on le veuille ou non, avec Moscou, dans la mesure où on est redevable, donc on continue à lui emprunter de l'argent, on bénéficie d'un prix au mètre cube qui est en dessous du prix du marché, ou est-ce qu'on coupe tout contact, et là, il va falloir effectivement demander aux Occidentaux de payer pour eux, parce que sinon tout ça va s'écrouler très rapidement.
Voilà, je vous propose d'arrêter là notre partie internationale. On n'a pas tout traité, bien sûr. On dira juste qu'on avait une bonne nouvelle, c'est celle d'un roi en Espagne qui abdique. La mauvaise, c'est qu'il a un successeur. Et on va faire cette pause musicale avec Serge Reggiani sur fond de commémoration du 6 juin 1944, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe à, je sais pas, beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui nous fait comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, je retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnotte était aussi pratique. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les enfermit en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme est conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
C'était Serge Reggiani qui chantait Boris Vian, bien sûr. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info qui arrive dans sa partie nationale avec peut-être comme premier sujet l'ouverture pour une semaine du 48e congrès de la CFDT. Quelques presque 2000 personnes à Marseille avec Laurent Berger comme seul candidat, mais surtout des questions qui se posent autour de la ligne à suivre pour le syndicat. Faut-il toujours suivre le PS avec autant d'assiduité ou s'en démarquer ou se retourner un peu contre les patrons qu'on a couverts d'or comme s'ils en avaient besoin et qui ne veulent même pas lâcher quelques piécettes en contrepartie. Voilà une partie des sujets qui vont se débattre au sein de ce congrès. Robert ?
Oui, avec un point d'orgue lorsqu'il sera le moment venu d'évaluer pendant ce congrès les avantages, les succès et les échecs d'un accord qui est déjà en cours d'application et qui va même trouver au mois de juin un développement sur l'aspect sécurité de l'emploi. C'est ce fameux accord national interprofessionnel, l'ANI qui avait été donc refusé par les autres syndicats comme la CGT et FO essentiellement. Et cet accord, effectivement, qui était avant le pacte de responsabilité était déjà c'est une négociation, hein, c'est une négociation entre le MEDEF et les syndicats, alors que le pacte de sécurité c'était bien également une négociation mais qui était on va dire presque tripartite parce qu'il y avait effectivement une intervention manifeste du gouvernement socialiste dans cette opération suivante. Et tout ceci, ça pourrait être pour la CFDT l'occasion de dire que effectivement, de toute façon, un syndicat c'est toujours réformiste. Alors c'est pas la peine de dire qu'il y a les réformistes et les révolutionnaires. D'ailleurs, dans la coulisse, y compris d'ailleurs à la CGT, on dit que de toute façon la CGT, elle est pas révolutionnaire comme elle a pu l'être dans des décennies précédentes, de même, et encore moins FO qui est partagé par des courants contradictoires qui vont du conservatisme jusqu'à, on pourrait dire, à l'ultra-révolutionnaire. Donc pour la CFDT, eh bien c'est le constat que finalement le chômage ne recule pas, que la précarité dans l'emploi, malgré cette espèce de corset sécurisant qu'on avait prétendu vouloir mettre, eh bien il fonctionne mal. Et que tout ceci va peut-être s'aggraver dès lors que le gouvernement a décidé de céder au patronat la responsabilité de régler la question du chômage, en quelque sorte. Bon, les choses dites comme ça, ça peut apparaître simpliste à certaines oreilles, mais en fait, le fond de l'affaire, c'est bien ça. C'est ce fameux débat entre l'offre et la demande. Le gouvernement a fait le choix de l'offre, c'est-à-dire il veut voir quelle est l'offre de l'emploi sur le marché, plutôt que de par les moyens habituels du pouvoir d'achat et de création d'emplois, faire que ce soit la demande qui décide de la réduction du chômage. Donc cette histoire de tout laisser dans les mains de l'offre, c'est en débat à la CFDT, c'est le même débat d'ailleurs que celui sur l'appréciation du coût du travail par rapport au coût du capital, et que la CFDT n'ose pas le dire, alors que la CGT, FO, d'autres le font, que la variété de bataille, ça serait effectivement de s'en prendre au coût du capital, et tous les paramètres le montrent, le coût du capital, c'est aussi par exemple les taux d'intérêt, c'est toutes les affaires de la dette, c'est tout ça. Donc la CFDT va en discuter, mais paradoxalement, il n'y a pas eu dans la préparation. Est-ce qu'il y a une usure syndicale, une démission, un découragement? Mais on ne peut pas dire qu'il y a une opposition qui s'est structurée cette base de dénonciation, ou voire même, on n'aime pas beaucoup dénoncer à la CFDT, mais une alternative à la politique que mène Laurent Berger en connivence évidente avec le gouvernement socialiste.
Ouais. Michel, tu as un point de vue sur ce congrès CFDT, sur les positions de ce syndicat ?
Pas vraiment, non. Je veux dire, moi, j'en attends absolument rien. Hein. Enfin, par réformisme, c'est un syndicat, je ne vais pas dire qui est aux ordres, mais on voit bien qu'il accompagne la politique du gouvernement. Mais la politique du gouvernement est tellement d'essence libérale que c'en est gênant, quoi, de voir que c'est un syndicat de travailleurs et qu'il y en a qui finalement donnent du crédit à cette politique-là.
Mais étonnant quand même qu'à la base, parce que certes, il y a des permanents salariés à CFDT, mais il y a aussi toutes les 870 000 adhérents qui leur restent. Ces gens-là doivent être passablement exaspérés, non ? Parce que c'est eux qui payent les pots cassés, tout ça.
Bien entendu, mais alors, ils n'ont qu'à virer, changer, ils rendent leur carte. Il y a des moyens d'action. Hein, et la chose assez étonnante, donc, c'est leur capacité donc à maintenir, donc, ou bien une certaine frange des travailleurs de la population accepte et a intégré hein, cette politique de réforme qui est ni plus ni moins que se défaire de tous les acquis hein, que les générations précédentes ont eu de haute lutte quoi. C'est ça qui en est gênant. La position de Berger qui nous dit qu'il commence à se dissocier de la politique du gouvernement, ça fait un peu penser à Juncker qui brigue la présidence de l'Union Européenne et qui commence à critiquer l'Europe qui lui-même effectivement il a mis en place hein, l'Europe que tout le monde honnit quoi.
Et un splendide paradis fiscal au Luxembourg.
Bien entendu, oui.
Ben, social aussi, puisqu'on était dans les syndicats, un mot de la grève de Buffalo Grill, alors c'est pas notre resto préféré, néanmoins 60 enseignes sont en grève à l'initiative de CGT et FO. Sur le motif de la modulation du temps de travail, ça c'est le langage des patrons. Hein. En gros, il s'agit de pouvoir changer un peu n'importe quand les horaires des travailleurs, de manière à la fois permettre de répondre au moment où il y a la bourre et plus que de les mettre en chômage technique quand il n'y a pas beaucoup d'activité, et puis aussi d'éviter qu'ils aient des heures supplémentaires en les annualisant, puisque ces heures supplémentaires coûteraient 5 millions d'euros au patron. Il est évident que ces heures, elles venaient de quoi ces heures? Quand il y avait beaucoup de clients, on demandait aux gens de rester ou de faire un peu plus d'heures. Et donc leur idée, c'est d'arriver à supprimer toutes ces heures-là en lissant les horaires de travail. Les travailleurs ont bien compris que tout ça était dirigé fortement contre eux et il y a une grève. On va voir s'ils arrivent à faire valoir leur cause ou pas.
Il y a peut-être un élément qui va être beaucoup discuté, et notamment la CGT, mais aussi parmi les travailleurs qui ne sont pas forcément en lien ou qui suivent la CGT, c'est l'accord Fralib. Fralib, qui sera maintenant donc une coopérative ouvrière, du groupe Unilever. Un accord s'est fait après une négociation discrète, on va dire, depuis quelques mois entre les syndicats, avec des intermédiaires de la préfecture ou même du gouvernement et même proches de Hollande et les représentants d'Unilever. Alors l'accord s'est fait, on était un peu surpris parce que ça semblait que Unilever, de toute façon, n'en avait rien à foutre et voulait absolument rien lâcher. Or, en fait, c'est les syndicats, c'est les travailleurs qui finalement ont fait ce que certains peut-être appelleront le plus gros sacrifice, c'est-à-dire qu'ils abandonnent l'idée de poursuivre avec la marque Elephant, de poursuivre cette grande tradition de fabrication de thé. Et c'est évident qu'en abandonnant l'éléphant, l'accord devenait possible. En contrepartie, Unilever levait toutes les exclusivités qu'il voulait garder par rapport aux productions de ce que pourrait faire la nouvelle coopérative ouvrière Fralib. Alors voilà, c'est un compromis qui était sans doute peut-être inévitable, compte tenu que le conflit durait depuis 3 ans, qu'il n'était plus guère que 60 à 70 salariés à tenir encore, à faire une autoproduction, et que c'était 200 salariés au départ. Bon, voilà, alors, sortie de conflit. Bon, un lieu de vie intéressant, puisque ce sera une coopérative ouvrière, sur une base d'un compromis qui, lui-même, semble-t-il, montre bien ce qu'est la réalité du rapport de force encore entre le capital et le travail, surtout s'agissant là d'une multinationale.
Mmh. Alors, on dira un mot de l'action politique au niveau gouvernemental cette semaine. Donc Hollande rencontre sa majorité parlementaire. On sait qu'il y a des socialistes, comment ils s'appellent, j'ai oublié le mot, déçus, enfin dépités, quelque chose comme ça, qui cherchent à récupérer tout le monde. Il se donne beaucoup de mal pour faire le clown et nous distraire avec des sujets qui pourraient nous faire oublier tous les malheurs qu'il a engendrés. Il va avoir Soulage et il disserte sur le noir dans les couleurs de Soulage. C'était pas trop difficile comme exercice. Et il va aussi organiser un grand cirque médiatique en Normandie le 6 juin. Vraiment, je pense qu'avec ça, il va remonter dans les sondages à 90%. La France n'attendait que ça, quoi. Plus sérieusement, il y a la réforme pénale qui veut essayer de remettre en route. Il y a les régions. Là aussi, c'est des sujets qui, certes, ont leur importance et leur intérêt, mais qui ne sont pas les priorités. Il a dû oublier. L'ennemi, c'est la finance. L'emploi, c'est ma préoccupation. Dans tout ça, il n'en est pas tellement question.
Une des grandes banques françaises va certainement payer une amende record et on a pas entendu notre président non plus sur ce dossier-là.
Oui, le directeur de la banque devrait retrouver notre ami Kervé allant en prison puisqu'il a une délinquance du même ordre de niveau. Enfin, délinquance, on pourrait en discuter parce que c'est surtout la mainmise américaine sur les banques qui ne sont pas américaines qui est valorisée dans cette opération.
Et aucune intervention du président.
Voilà, ben on arrive à 8h, tout bientôt. Là aussi, quelques sujets qu'on n'aura pas traités, on aura peut-être l'occasion d'y revenir prochainement. Côté spectacle, si on peut dire, eh bien, je rappellerai que Ma guerre d'Algérie, le spectacle de Bernard Gerland, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, spectacle témoignage, sera donné une nouvelle fois à la librairie Terre des Livres, qui est 86 rue de Marseille. Donc c'est une entrée à prix libre, réservation conseillée. Durée du spectacle 1h20 et avec à la suite un débat avec le public comme le fait Bernard Gerland à chacune de ses présentations. Et puis Éric Simonet sera au Galet Bleu, 18 rue Payron, là c'est jeudi. Le vendredi 6, ben, c'est les commémorations du débarquement. Avec Poutine, on se demande ce qu'il vient faire là. On aurait commémoré avec lui le 2 février 1943 Stalingrad. Ça aurait eu un peu plus de sens, pas tant que ça, puisque c'était les communistes qui étaient au pouvoir et pas les libéraux de Poutine à ce moment-là. Mais enfin, bon, tout est bon pour amuser les populations et faire un peu de révisionnisme historique au service des thèmes et des pouvoirs en place dans le moment, quoi.
Oui, mais ça peut être utile pour régler le conflit ukrainien. Je crois que tout le monde a compris.
C'est sûrement ça. Voilà, j'ai plus le temps de vous faire écouter une chanson de Alain Leprest. Néanmoins, ce 3 juin, demain, il aurait eu 60 ans s'il avait survécu. Ce Canu Info sera diffusé demain matin à 8h. Vous devriez pouvoir le réécouter sur Internet. Nos excuses pour les incidents techniques du début, mais on s'en est sorti quand même. Bonsoir et à bientôt.